Chers amis de Radio Courtoisie, bienvenue pour ce libre journal de la chrétienté. Au micro, l'abbé Guillaume de Tannouarn, et j'ai le plaisir d'accueillir deux jeunes femmes engagées dans l'Église à propos de l'enseignement dogmatique qu'est la corédemption de Marie. Donc vous allez voir, dans cet énoncé qui vous paraîtra peut-être un petit peu sec, pour les plus intellectuels d'entre vous, vous direz que vous avez peut-être déjà fait le tour, mais vous savez, le dogme, ça surprend toujours. C'est le propre du dogme de surprendre. On nous dit que le dogme, c'est quelque chose d'obligatoire, et on se contente de définir le dogme comme obligatoire. Il faudrait peut-être dire avant que le dogme est surprenant. Et vous allez aller de surprise en surprise avec Karen Darentière, donc qui est la présidente de cette association, et avec Thérèse Arnaud, qui est son assistante à toutes les mains. Voilà, donc on va parler de cela dans une minute, mais je voulais vous présenter aussi un organisateur d'événements,
Daniel Castillo,
qui, ça fait très longtemps que vous travaillez autour de cet événement, disons, avec différents.
Oui, c'est la 12e année.
Je me souviens que vous veniez aussi au Centre Saint-Paul en ce temps-là, pour communiquer la religiosité du Mexique. Parce qu'au fond, c'est ça.
Oui, mais c'est une religiosité, c'est une dévotion à la Vierge Marie, donc c'est tout à fait dans le thème de l'émission.
Un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés du monde.
Hein, oui, plusieurs millions de personnes chaque année à Mexico, à la basilique qui abrite une des plus grandes reliques mariales, on peut le dire, dans le monde, qui est l'image
le vêtement de Diego.
Tout à fait, l'image de la Vierge qui s'est imprimée il y a 500 ans sur le vêtement du voyant, il est toujours exposé au public dans cette basilique.
Et alors vous, ce qui vous intéresse, c'est beaucoup les traditions populaires autour de cet événement.
Oui, y a aussi l'aspect spirituel, et évidemment le message délivré par la Sainte Vierge lors des apparitions au Mexique entre le 9 décembre 1531 et le 12 décembre de la même année. Effectivement, je m'occupe en France d'organiser tous les ans dans le diocèse de Paris une grande célébration à l'honneur de la Vierge de Guadalupe. Il faut savoir que c'est une fête de première classe au Mexique, dans les Amériques. C'est très, très important. On peut également...
Le problème, c'est qu'on méprise la religion populaire. Et on ne se rend pas compte qu'en méprisant la religion populaire, on méprise le peuple qui la porte. Et je pense que, il faut quand même dire du bien de ses ennemis, c'est une des cartes que le pape François nous a appris à manier.
Tout à fait.
C'est l'importance de la religion populaire.
Et lors de cette célébration qui aura lieu donc dimanche 14 décembre en l'église Saint-Eugène à 15h45, il y aura des traditions populaires, je pense qu'on ne peut pas déconnecter la liturgie de ces traditions populaires, de ces habitudes. On va honorer la Sainte Vierge qui est apparue au Mexique, et on aura notamment des cantiques à la Vierge Marie, notamment à la fin de la messe, chantée par des musiciens mexicains. Mariachi, ça c'est une obligation au Mexique pour cette grande fête. Mais pas seulement, je m'attache également à faire découvrir la musique baroque de la Nouvelle-Espagne, puisque le baroque, évidemment, s'est exporté aux Amériques. Et il y a vraiment des trésors artistiques du 17e, 18e siècle qu'on s'efforce de jouer lors de cette messe.
Et qui ont été mis sous le boisseau d'ailleurs. Oui,
tout à fait. C'est vrai que la fin de la Nouvelle-Espagne et la Révolution mexicaine a, complètement perturbé le paysage ecclésial de l'époque. Avant, à l'âge d'or des cathédrales aux Amériques, les budgets étaient colossaux pour entretenir des orchestres, des chorales. Et tout ça est tombé dans l'oubli, et à la fin du XXe siècle, des chercheurs se sont mis à reconstituer...
Alors vous faites jouer des pièces mexicaines ?
Tout à fait. Donc cette année, il y aura vraiment un très très beau programme, puisqu'on entendra pour la première fois en France, dans son contexte liturgique, une messe composée par un des plus grands de la musique baroque au Mexique, Juan Gutiérrez de Padilla, une messe à 8 voix, donc avec 2 chœurs.
8 voix déjà, ça c'est...
avec
c'est
deux
baroque.
Chœurs, et c'est complètement baroque, et on va se plonger dans... Voilà, on va faire un grand voyage culturel, historique, spirituel aux Amériques, donc dimanche à 15h45 dans l'église Saint-Eugène à Paris.
Voilà, il ne faut pas que vous oubliez de dire que tout ça a lieu à Saint-Eugène et grâce aux paroissiens de Saint-Eugène.
Tout à fait,
ils
à
se
l'accueil du
mobilisent
curé,
avec vous.
L'abbé du Rodier, et ça sera dans le contexte liturgique, donc avec une messe traditionnelle, solennelle, voilà, pour faire connaître aux latino-américains la liturgie traditionnelle. C'est très important, ça fait vraiment partie de l'ADN de cet événement. Et il le découvre sans a priori idéologique, sans...
Il découvre que la musique était faite pour, en fait.
Ben oui, et c'est très beau de voir ces personnes, notamment ces jeunes qui peuvent prier sans... Voilà, avec cette liturgie qui est...
Je sais que Karen Darentière, ici présente, avait fait, en ce temps-là, un catéchisme pour adultes, que j'avais beaucoup apprécié, et en particulier parce qu'elle ouvrait ce catéchisme aux réalisations de l'art chrétien. Et à travers l'art chrétien, on va à la vérité chrétienne. Et donc, ce que vous faites, c'est du pratique. Mais cette pratique, elle est très importante pour nous souvenir des richesses qui sont les nôtres.
Tout à fait,
Et
tout à
qu'on a
fait.
tendance à oublier et à perdre. Voilà, donc, redites la date.
Alors, c'est dans quelques jours, donc dimanche à 15h45.
Dimanche prochain.
Église Saint-Eugène, 4 bis rue Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris, avec
Métro.
métro Grand Boulevard ou Cadet. Et voilà, on attend beaucoup de monde, comme chaque année, avec un magnifique programme musical qui, espérons, va élever l'âme. Mais oui, c'est le
Faire
but.
découvrir des choses.
Tout à
Je pense
fait.
que c'est ce qu'il faut souhaiter à vos, j'allais dire à vos fidèles, ce ne sont pas les vôtres, mais
Fidèle de
disons,
la Sainte Vierge du Mexique.
voilà, aux fidèles de la Sainte Vierge, c'est très bien dit. Eh bien, merci beaucoup, Daniel.
Merci à vous, monsieur l'abbé.
Et bonne réussite. Et puis finalement, c'est un petit peu le travail de Karen Darentière que d'organiser des événements aussi. Mais vous organisez des événements, Karen, dans une perspective un peu différente. C'est pas de l'art cette fois-ci, c'est de la théologie.
Oui, mais juste pour
Vous
faire.
avez organisé un événement théologique, c'est quand même pas rien, c'est pas donné à tout le monde.
Oui. Mais juste pour faire le lien avec cette fête de Notre-Dame de Guadalupe, l'événement que nous avons organisé, c'était un colloque sur la co-rédemption. Et on peut faire un lien avec Notre-Dame de Guadalupe parce que quand Notre-Dame est apparue à Juan Diego en 1531, elle s'est présentée à lui dans sa langue comme Sainte Marie de Guadalupe. Et le terme Guadalupe signifie celle qui écrase le serpent. Et donc Marie s'est présentée comme la femme de la Genèse, la femme que Dieu a promis après la chute d'Adam et Ève, donc la femme qui triomphera du démon, qui écrasera la tête du serpent.
Alors,
juste.
je pense que nos auditeurs vont être surpris de pas mal de choses dans ce que
Oui,
vous
oui,
dites
oui.
et qu'il faut qu'on aille plus doucement pour
Oui.
que chacun comprenne de quoi il s'agit.
Oui, mais on va découvrir petit à petit, mais pour faire le lien avec Notre-Dame de Guadalupe, le lieu où elle est apparue à Juan Diego était auparavant un lieu de sacrifice d'enfants. Voilà, les enfants, c'est assez horrible, mais étaient arrachés
Et les populations latino, non, mais
voilà.
d'Amérique du
Amérindienne.
Sud,
Oui,
amérindienne,
mais
étaient quand même très...
voilà.
fonctionnaient beaucoup sur le sacrifice.
Sacrifice d'enfants qui
D'enfants et d'adultes, hein.
étaient des enfants non encore nés, qui étaient arrachés de leur sein de leur mère et qui étaient sacrifiés à une déesse une sorte de déesse de la terre-mère qui était revêtue d'une jupe de serpent. Et donc la Sainte Vierge est apparue en ce lieu pour écraser la tête du serpent. Et c'est, on peut dire que
C'est le
c'est en.
contraire du culte local, en fait.
Oui, et c'est la co-rédemptrice. C'est ça la co-rédemptrice, c'est celle qui triomphe du démon. Donc il y a un lien. Enfin, on y reviendra petit à petit.
On va y revenir.
Mais il y a quand même un lien avec Notre-Dame de Guadeloupe. C'est celle qui triomphe du démon. C'est Marie co-rédemptrice.
Donc vous avez vraiment une connaissance très précise de cette co-rédemption de Marie. Et vous luttez parce que certains hiérarques de l'Église d'aujourd'hui voudraient voir disparaître ce culte de Marie co-rédemptrice en disant que ce n'est pas bien étayé dans l'Écriture, qu'on n'est pas sûr et que ça porte à de mauvaises interprétations, on ne sait pas lesquelles d'ailleurs. Mais pour toutes ces raisons, ce culte de Marie co-rédemptrice est menacé. Mmh. Menacé par ceux qui devraient être vénérer le plus la Vierge co-rédemptrice, c'est-à-dire ses prêtres.
Il est même interdit, puisque la note à laquelle vous faites référence, la note qui a été promulguée par le dicastère pour la doctrine de la foi, a dit que le terme de Marie co-rédemptrice était toujours inopportun. Donc, c'est pas seulement qu'il faut s'en méfier, c'est que...
Alors, j'ai lu qu'il y avait une autre traduction un peu
différente.
Plus bienveillante. Mm. Je ne sais plus.
Mais si on lit le document, on voit que ce n'est non seulement le titre, mais c'est la doctrine qui fonde le titre qui est niée par le dicastère pour la doctrine de la foi. Donc c'est très clair. Et non seulement la co-rédemption, mais aussi la médiation toute grâce.
Alors vous allez nous raconter un peu la manière dont vous vous êtes intéressée à ce sujet, Karen Darrentière. Comment ça vous est venu? Qu'est-ce qui a fait que, brusquement, vous organisez ce colloque qui a surpris tout le monde dans le diocèse de Paris, si j'ai bien compris?
Mmh. Ben, déjà, je suis responsable de la confrérie Marie co-rédemptrice. Et...
Oui, mais avant ça, vous avez fait ce choix.
Choix...
Est-ce que vous saviez que l'appellation Marie co-rédemptrice était menacée?
Non, la confrérie a été fondée il y a 5 ans, bien avant la note du dicastère. Donc, le colloque n'est pas une réponse à cette note du dicastère pour la doctrine de la foi. C'est plutôt le contraire. Voilà, c'est plutôt le dicastère qui a réagi à cette tentative de répandre la dévotion à Marie co-rédemptrice. Voilà. Donc, mais ça fait depuis plusieurs années que nous essayons par la prière et par les enseignements de faire connaître et de faire aimer Marie sous ce titre, ce beau titre de co-rédemptrice.
Alors, vous avez trouvé une église qui vous a accueilli pour faire ce colloque?
La confrérie Marie co-rédemptrice, est à l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, la même église où il y aura donc cette belle messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadeloupe. Mais le colloque, nous avons organisé un colloque sur la co-rédemption au mois de mai dernier. Et donc le lieu qui nous a accueillis, c'était à la cité universitaire.
C'est la laïcité française finalement qui vous accueille.
Qui nous a fait bien bon accueil, oui.
C'est un paradoxe.
Voilà. Oui, on peut le dire.
Bon, et alors, durant ce colloque qui avait lieu en terre laïque, vous m'avez expliqué de manière amusante tout à l'heure que co-rédemptrice, apparemment, la personne ne savait pas ce que ça voulait dire et que vous êtes passé de cette façon.
Oui, alors on cherchait un lieu pour accueillir un grand public parce que nous avions des conférenciers éminents comme Monseigneur Athanasius Schneider et puis plusieurs mariologues, théologiens pour parler de la co-rédemption.
Dans plusieurs langues différentes.
Oui, d'origine nationale variée, disons. Et on cherchait un lieu. Et j'ai contacté la cité universitaire, entre autres lieux. Et le lieu était tout à fait propice. Il y avait une très belle salle qui pouvait héberger 250 personnes, ce qui nous convenait. Et on me demandait le nom de l'association. Alors, j'avais une certaine crainte, sachant que c'est la République française qui détient ce lieu. Et j'ai dit...
Toute américaine que vous soyez, que le montre votre accent.
Oui. Alors, j'ai dit que l'association s'appelait Marie Corridomptrice. Et la personne au téléphone a répondu, Marie qui? Donc, quelquefois, l'ignorance de nos concitoyens peut nous être...
Peut-être une protection.
Une protection, voilà.
Voilà, mais alors, faites-nous sortir de l'ignorance sur ce sujet de la corédemption de Marie et expliquons un petit peu aux auditeurs de quoi il s'agit. Peut-être vous voulez que Thérèse Arnaud commence?
Oui, alors qu'est-ce que c'est que la corédemption de Marie? Si on m'avait demandé il y a, je ne sais pas, 7 ans, je n'aurais pas su répondre. Et donc, je peux facilement me mettre à la place
des autres. Vous êtes vous-même une convertie au christianisme?
Non, je suis née catholique.
Vous êtes née catholique?
Oui,
je suis née. Vous avez fait un trajet personnel?
Oui, en fait, j'ai grandi dans le Novus Ordo et je ne connaissais pas la messe traditionnelle dans mon enfance. Mais dès que j'ai découvert la messe traditionnelle, à l'âge de 20 ans, j'étais acquise à la cause. Voilà. Donc, je n'ai jamais quitté la messe traditionnelle depuis. Voilà.
Très bien.
Mais la corédemption était une découverte, je dirais, plus récente. Et le point de départ, peut-être, c'est une dévotion à Notre-Dame dans ses douleurs. On parle de Notre-Dame des douleurs. C'est un des beaux titres de Marie qui existe.
Alors même Notre-Dame des sept douleurs.
Voilà. Notre-Dame des sept douleurs. Et j'ai chez moi une belle image de Notre-Dame des douleurs. Elle a une expression de douleur sur le visage. C'est une magnifique œuvre d'art. Et je voulais comprendre la signification de ces douleurs et de ce tableau. J'ai cherché et j'ai découvert cette très ancienne et dévotion très traditionnelle à Notre-Dame des douleurs. Il y a un chapelet qui remonte au Moyen-Âge, qui honore Notre-Dame dans ses 7 douleurs principales. Et ça commence, la première douleur, c'est la prophétie de Siméon. Voilà.
Alors, c'est très important de comprendre que tout ça n'est pas seulement de la dévotion privée ou de la dévotion personnelle,
oui,
mais qu'il y a un enseignement l'Écriture sur les souffrances de Marie.
Oui, c'est ça. Donc, ceux qui affirment que la corédemption n'est pas dans les Saintes Écritures ignorent le sens qu'a donné la tradition à, par exemple, la prophétie de Siméon. Quand la Sainte Vierge a présenté Jésus au Temple, quand il était tout enfant, Siméon a prophétisé qu'un glaive transpercera l'âme de Marie. Voilà. Donc,
qui donne à ses souffrances un caractère spirituel, essentiellement.
Voilà, un caractère co-rédempteur, parce que le Christ s'est fait homme pour mourir pour nous, voilà, pour nous sauver par sa sainte mort, par sa croix.
Est-ce que la mort du Christ n'était pas suffisante pour nous sauver? Est-ce qu'il y a besoin d'une corédemptrice?
Alors, ça c'est quelque chose qui est tout à fait méconnu par le document du dicaster, parce que ce document du dicaster affirme une vérité qui est très importante, qui est que seul le Christ est nécessaire de manière absolue, parce que Dieu seul peut nous sauver. Mais Marie n'est pas nécessaire de manière absolue, comme Dieu, mais elle est d'une nécessité toute relative à la volonté de Dieu. Cela veut dire, en fait, que Dieu a voulu se faire homme par Marie, et de même qu'il a voulu se faire homme par Marie, eh bien, il a voulu que nous allions à lui par Marie. C'est-à-dire, elle nous est nécessaire non pas de
elle
manière
est nécessaire à l'humanité entière.
À l'humanité entière, non pas d'une nécessité absolue. Dieu seul est l'unique nécessaire, mais elle est nécessaire relativement à la volonté de Dieu, parce qu'il a voulu.
Alors, voilà. Je pense, si je peux me permettre, en tant que apprenti métaphysicien, je dirais, je pense qu'on peut dire que Dieu aurait pu faire que le salut soit donné à tous. Mais Dieu a voulu que nous participions à notre salut.
Oui.
Et c'est cette vérité-là qui est menacée quand on abandonne la co-rédemption de Marie.
Mmh,
c'est que nous sommes tous co-rédempteurs.
Oui, mais Marie a un titre tout à fait à part.
Et Marie a un titre tout à fait particulier parce qu'elle est co-rédemptrice de l'humanité sauvée,
oui.
L'humanité tout entière. Oui. Nous sommes co-rédempteurs de notre petite personne et des gens pour lesquels nous prions. C'est la communion des saints, le dogme de la communion des saints qui permet de communiquer les mérites des uns aux autres.
C'est cette différence aussi entre Marie et le reste des hommes qui est gommée par la note, au sens où la note justement affirme que Marie est comme nous, elle est la première des disciples et la meilleure des disciples de Jésus, elle est un peu comme notre sœur plutôt que d'être notre mère, en quelque sorte, et donc elle est...
Je vous entends très bien, j'ai appris ça au catéchisme, enfin ce qu'il en restait il y a 50 ans.
Il faudrait écrire un nouveau catéchisme alors pour enseigner ces vérités, mais
je pense.
Mais oui.
Et Karen Darentière avait fait un catéchisme en ce temps-là que j'avais beaucoup utilisé.
Bah, il faut un nouveau.
Pour des catéchumènes, donc elle doit être prête à faire une version actualisée de ce catéchisme.
Ou un catéchisme tout spécialement sur la Sainte Vierge.
Et l'autre problème aussi qui est lié à cette question de la co-rédemption, c'est le problème de la médiation de toutes les grâces qui est aussi remis en question par la note. Et donc ce qui est problématique, c'est ce fait que Marie est descendue de son piédestal en quelque sorte, elle est découronnée par la note et elle est transformée en simplement
une
femme comme les autres, une rédemptrice comme nous le sommes tous, c'est ce que dit saint Paul, voilà, nous achevons... l'œuvre de la rédemption dans chacun de nos membres, mais Marie l'a fait d'une manière
éminente. Il dit même ce qui manque à la passion du Christ.
Oui, c'est ça. Mais Marie a
donc
souffert une passion...
Donc il manquerait quelque chose à la passion du Christ, alors que même que le Christ est divin.
Et c'est ça.
Qu'est-ce qui manque ? La liberté. La liberté de l'homme. Parce que l'homme collabore à son salut par sa liberté. Et Marie collabore au salut de l'humanité par la liberté avec laquelle elle a accepté cette tâche. Et elle l'a prise sur elle.
Oui, mais elle le fait d'une manière différente de nous parce qu'elle est immaculée et nous ne le sommes pas.
Parce qu'elle, elle concerne sa médiation concerne toute l'humanité.
Oui.
Elle a une place particulière dans le plan divin.
Voilà.
Le Christ n'est donné au monde que par Marie. Et ce n'est pas le cas de chacun d'entre nous. Nous ne donnons pas le Christ au monde.
Oui. Voilà. Et puis, nous, si nous sommes, entre guillemets, co-rédempteurs, c'est seulement pour, la dispensation des grâces par nos prières, alors que la Sainte Vierge était là, présente aux prières de la croix et elle a participé par sa compassion aux souffrances du Christ sur la croix.
En tout cas, c'est ce que semble indiquer le vieillard Siméon.
Ben, c'est ça que Siméon indiquait.
Vous citiez cette scène au chapitre 2 de Saint-Luc.
Oui, c'est ça. Et puis ça renvoie donc à la croix et elle a participé non seulement par ses prières à nous donner les grâces, mais à l'acquisition même de ces grâces sacrifiques. Et c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Elle seule, comme co-rédemptrice, a pu participer à cette acquisition des grâces.
Voilà, il faut faire comprendre à nos auditeurs que l'enjeu, c'est tout simplement de savoir si Marie est une femme comme les autres.
Oui.
Et c'est de répondre non.
Non.
Voilà. Comme dit le cardinal de Bérulle, que j'aime beaucoup, Marie est un ordre à elle toute seule.
Oui.
Elle n'est pas compréhensible uniquement par les autres femmes.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et une chose...
Où elle est, comme dit Cajetan, aux confins de la divinité.
Oui, Elle est aux confins de la...
Parce qu'elle est mère de Dieu.
Oui, c'est ça. C'est sa maternité divine, en fait, qui est abaissée, diminuée par la note du dicaster.
Voilà. Si on refuse la corédemption de Marie sur nous, on refuse aussi son rôle dans la Trinité.
Oui, c'est ça. Elle est seulement, alors, mère de Jésus dans son humanité. Elle n'est plus...
Et non plus mère de Dieu.
Mère de Dieu. Parce que si elle est mère de Dieu... Eh bien, son mystère appartient par son point d'aboutissement à l'ordre de l'union hypostatique. C'est un grand mot, mais ça veut dire que...
L'union hypostatique, c'est...
Voilà, c'est que...
L'union Dieu, des deux natures humaines et divines...
Dans l'unique personne...
Je me permets d'expliquer un peu, parce que l'union hypostatique, ça va...
Faites le catéchisme.
mais en fait, c'est ce que nous savons tous, c'est que Jésus... est une personne divine avec deux natures, humaine et divine. Et Marie est la mère de la personne, une mère et une mère de la personne. Donc, elle est liée, voilà, donc à l'union de la nature humaine et de la nature divine dans l'unique personne.
Quand vous dites Marie est mère de la personne, j'ai envie de parler du Père Spic, qui est un éminent dominicain, un éminent exégète, qui avait fait un petit livre qui s'appelle « Ce que Jésus doit à sa mère ». Et il répondait biologiquement, tout. Et puisqu'il n'y a pas d'homme dans la conception de Jésus, il doit tout à sa mère. Alors, Marie ne représente-t-elle pas le mystère de l'Église dans son intériorité, tout à la fois la plus sublime et la plus cachée? Le mystère de l'Église dans son intimité.
Eh bien, Marie est mère de l'Église. Voilà, Marie est mère de l'Église. Comme elle est mère de Dieu.
Pour la même raison, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mère de l'Église pour faire beau dans un tableau.
Oui.
Elle est mère de l'Église parce que c'est par elle que tout ça est arrivé.
Oui, c'est ça. Finalement. Et elle n'est pas simplement un simple membre de l'Église. Elle est membre de l'Église parce qu'elle a été rachetée par le Christ, mais de manière tout à fait unique par son Immaculée Conception. Mais tout en étant membre de l'Église, elle est aussi au-dessus de l'Église parce qu'elle a enfanté l'Église.
Elle n'a pas eu besoin de l'Église. C'est l'Église qui a eu besoin d'elle.
C'est ça. Donc c'est un autre problème de cette note doctrinale, c'est aussi un problème de Lumen Gentium, de Vatican II, qui fait de Marie un simple membre de l'Église, comme Thérèse disait, comme nous tous. Voilà. Alors que c'est elle qui a enfanté l'Église au pied de la croix. Voilà. Elle a souffert les douleurs de l'enfantement, de sa compassion, unie à la passion du Christ, afin de nous enfanter spirituellement parlant au pied de la croix. C'est là où elle devient notre mère de grâce, voilà, véritablement.
Voilà, et l'expression de mère des hommes se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 17.
Oui, c'est ça, encore une référence biblique.
Mais c'est encore un passage de la Bible qu'on obscurcit, puisqu'on prétend que cette femme de l'Apocalypse, grand signe dans le ciel, c'est l'Église.
C'est l'Église, mais c'est d'abord Marie.
Ça peut pas
Marie,
être l'Église, puisqu'elle est celle qui enfante celui qui doit venir avec une verge de fer pour juger les nations. Donc elle est la mère du Messie, c'est écrit noir sur blanc.
Oui.
Si vous dites que l'Église est la mère du Messie, vous êtes la plus grande des anticléricales qui soit. Parce que si l'Église est la mère du Messie, ça veut dire que toute cette affaire n'existe que par l'Église et que le christianisme peut fermer boutique. Ce que certains ont pensé.
Oui. En tout cas, c'est tout à fait dans la tradition d'interpréter ce passage de l'Apocalypse et on le voit dans des œuvres d'art. Voilà, il y a tellement d'œuvres d'art qui montrent Marie comme la femme de l'Apocalypse.
Moi, je dis, c'est les artistes qui ont compris.
Oui.
Qui ont compris Marie. Parce qu'il ne la représente pas seulement dans son annonciation.
Oui.
C'est vrai que l'art italien, Madre comme Bambino, on en a des un nombre fou. Mais les artistes représentent aussi Marie, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, comme triomphant des puissances du mal.
Ce sont des vrais dévots, comme dirait Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, et non pas des intellectuels qui ont un rapport purement
sec. Vous voulez dire que les artistes sont des vrais dévots ?
Les artistes, oui, sont des vrais dévots, parce qu'ils ont ce rapport filial, ils veulent représenter leur mère et montrer comme elle est belle, contrairement aux théologiens ou aux intellectuels qui l'abordent
ils
simplement.
Ils d'abstraction.
Voilà. C'est un rapport vivant à elle.
Voilà.
Merci pour cette belle émission. Maurice Zandel a dit « Marie est la fille du Fils, dont je parlerai à ton cœur. » Marie est la fille du Fils, mais elle est aussi la mère du Fils.
Et l'épouse du Fils aussi.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Elle est tout à la fois.
Elle est tout à la fois. Oui, on peut
alors,
dire...
Alors, développer cette idée.
Oui, l'épouse du Christ, parce que... Thérèse, tu peux...
Elle est l'épouse du Christ parce qu'elle a été unie à lui par... par sa foi et par sa charité et par la pratique de toutes les vertus et elle était consumée d'amour.
Le Fils
doit
tout à sa mère, vous voyez, cette idée
oui,
du perspic.
Il y a même une où est-ce que j'ai lu ça, une idée comme quoi le Christ s'est incarné pour sa mère d'abord, pour l'Immaculée Conception, pour qu'il y ait Marie qui arrive.
Historiquement, oui.
Oui. Et puis on dit aussi que Marie est la nouvelle Ève avec le nouvel Adam qui est le Christ. Et donc, voilà, comme...
Et ça, c'est dit non seulement par des théologiens du XVIIe siècle,
oui.
Mais par peut-être le premier théologien, l'évêque de Lyon,
oui, c'est Saint-Irénée. Donc
c'est déjà dans Saint-Irénée.
Oui, et c'est dire que Marie est la nouvelle Ève, c'est dire Marie co-rédemptrice. Voilà, c'est Marie comme... En quelque sorte, voilà, spirituellement parlant, l'épouse du Christ, qui est avec le Christ, a enfanté l'humanité à la vie de la grâce. Voilà.
Oui.
Donc, oui.
Oui, ça montre aussi la médiation de toutes les grâces, parce que c'est elle qui est le canal, le vaisseau, donc la médiatrice de toutes les grâces. Elle est au milieu, on va dire,
alors
entre Jésus et nous.
Ça, c'est un autre père de l'Église, un des derniers, c'est Saint Bernard.
Saint Bernard, c'est
un
ça.
Un père français, Cocorico.
Qui parle de Marie comme le cou. Du corps mystique.
Voilà.
Donc, où passent toutes les grâces qui viennent depuis la tête. Et inversement, Ève a été peut-être, on peut dire, la médiatrice du péché.
Comment à Rome, ils ont pu pondre un document aussi opposé à toute la tradition de l'Église, quoi.
Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils citent toute cette tradition, mais de façon obscure. Ils mettent des références en notes de bas de page, mais sans donner les textes. Donc, il y a la référence, mais il n'y a pas le texte. Et tout est obscurci.
Oui, c'est ça. Ce sont des notes muettes. Voilà. Donc,
ils ne donnent pas les textes.
Non.
Et là où ils donnent quelques textes, ils détournent. Voilà, c'est un détournement des textes.
Alors, Karen, vous allez nous préparer un document hyper gonflé dans lequel vous montrerez que tous les textes vont dans le sens de la corédemption et que refuser la corédemption, c'est refuser les textes, c'est-à-dire la tradition,
oui.
C'est-à-dire notre raison de croire.
Oui.
Parce que moi, je n'ai pas envie de croire pour les beaux yeux d'un archevêque, fût-il le préfet du Saint-Office, dois vous dire. J'arriverai pas.
Surtout s'il va contre toute la tradition de l'Église, ce qui est le cas. Voilà. Parce qu'on peut citer beaucoup de papes, et notamment entre, je dirais, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par Pie IX en 1854 et la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950 par Pie XII. Donc c'était la grande époque mariale et tous ces papes ont enseigné la doctrine de la co-rédemption et la médiation de toute grâce de plus en plus clairement.
Donc là vous avez fait des études qui montrent ça.
Il me semble que les textes parlent d'eux-mêmes. Mais on peut, voilà.
Mais ce que vous engagez, c'est quand même une lutte. C'est parce que vous allez vous opposer à une opinion qui, étant l'opinion des supérieurs, deviendra une opinion malheureusement dominante, mais bêtement dominante.
Oui.
C'est peut-être votre chance.
mais en fait, on a toute la tradition et le magistère de ces papes, voilà, que j'ai que je viens de mentionner, ainsi que les pères de l'Église.
Voilà, et jusqu'au plus ancien, et moi ça c'est vraiment l'argument qui me touche beaucoup,
Saint Irénée,
de savoir que Saint Irénée de Lyon enseigne au IIe siècle que Marie est la nouvelle Ève.
Et puis les grands saints mariaux comme Saint Alphonse de Ligorie qui enseignait de manière très claire la médiation de toute grâce, ou Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui lui aussi enseigne.
Mais alors ces deux derniers, ça ne m'étonne pas.
Oui.
Ce sont des saints mariaux. Un peu comme Saint Bernard qui dit « De Maria numquam satis ».
Oui.
De Marie, on ne dit jamais trop.
Oui.
Alors, tous ces gens sont des inconditionnels de Marie. Et peut-être le cardinal Fernandez vous dira que les inconditionnels, il faut s'en méfier.
Mais ce sont des saints canonisés. Donc, je pense que
bien sûr.
Ils ont été canonisés pour une bonne raison.
Je suis obligé de faire
raison.
L'avocat du diable. Hein.
Peut-être que le cardinal Fernandez est conditionnel d'autre chose.
Voilà.
Bon, on remplace un extrême par un autre,
là, je
crois que les livres de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sont plus recommandables que certains livres du cardinal Fernandez.
Bon. Mais ça, il faudrait que vous l'écriviez. Parce que votre démarche n'aura de sens que si elle est noire sur blanc. Déjà, vous nous montrez la précision de vos convictions. Et c'est une très belle chose. J'étais, je dois dire, étonné d'une telle précision. Mais je pense qu'il faut vraiment écrire et que c'est votre rôle pour l'instant. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire, ce combat autour de la corrédemption mariale. Mmh. Ça peut redonner le sens de la rédemption.
Oui. Exactement, il y a vraiment un lien entre corrédemption et rédemption, c'est-à-dire que il y a un lien, on peut, surtout je dirais en priant ce chapelet des sept douleurs de la Sainte Vierge que nous avons mentionné tout à l'heure, comprendre le lien profond entre le sacrifice de Marie Corrédemptrice et le Saint Sacrifice de la Messe. Et ce côté sacrificiel de la messe a été, comme nous le savons, comme effacé ou gommé par le Novus Ordo, la nouvelle messe de Paul VI. Et donc, redécouvrir la corrédemption, c'est aussi redécouvrir le vrai sens du Saint-Sacrifice de la messe.
Alors, nous allons, avant de continuer, nous allons passer un petit bobino, je crois, qui est très important et que vous écouterez religieusement, c'est le cas de le dire. Et après le bobino, nous aurons
un morceau de musique baroque de Nouvelle-Espagne composé par Manuel de Sumaya, qui est sans doute le plus grand compositeur du Mexique. Voilà.
Très bien.
Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don.
Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 euros ne vous revient qu'à 34 euros.
Par avance, merci.
Thank you.
Thérèse Arnoux était complètement séduite par la musique, mais il faut quand même reprendre.
Oui, c'était magnifique.
Nos descriptions et nos réponses, parce que fourbir nos réponses, parce que il y a des auditeurs là qui posent des questions gênantes. Mais avant qu'ils ne les posent, vous aviez quelque chose à dire de cette musique, Thérèse.
Oui, ça me fait penser à une phrase de Jean-Sébastien Bach, qui dit que la musique n'a de raison d'être que pour être louange à Dieu ou prière, et qu'à partir du moment où on arrête de faire ce lien entre la musique ou l'art en général et l'élévation de soi vers Dieu, eh bien, la musique et l'art en général perdent son sens. Ce qui peut expliquer aussi peut-être le vide qu'on peut ressentir, le vide actuel, effectivement.
Parce que le monde n'est pas un monde religieux, l'art n'a pas de sens.
Et si l'art n'est pas un art religieux, il n'y a plus d'art et il n'y a plus de religion non plus.
Mais alors, un art religieux peut être explicitement religieux ou implicitement religieux.
Oui, vous avez raison.
Je vais prendre un exemple. J'ai relu récemment L'étranger.
Oui.
Parce que Madame Albanel a fait un très beau livre sur Camus.
Oui.
Et donc, en reprenant L'étranger, j'étais vraiment ému. Alors que cette émotion, je ne l'avais pas connue dans ma lecture potache. Étudiante ou du texte de Camus. Mais.
C'est l'icône de quelque chose quelque chose d'humain. Peut-être que c'est moins la transcendance que quelque chose d'universel, mais c'est quand même une icône de quelque chose, ce livre.
Voilà.
C'est-à-dire ça ouvre
une perspective. Et grâce au mot icône, vous maintenez cette idée que le religieux est partout dans l'art.
Qu'il devrait l'être, oui. Qu'il n'y a pas vraiment d'art si. Il n'y a pas d'icône, c'est-à-dire non pas une image qui enferme le regard dans elle-même, mais une image qui ouvre le regard vers autre chose, quelque chose d'invisible ou quelque chose de plus profond.
Très bien. Et vous aviez à nous parler aussi, vous vouliez évoquer pour nous un texte de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui entre dans l'arène en quelque sorte et qui fait un peu polémique.
C'est le tout début de. Enfin,
comme
presque
quoi, il y a
des
gens très bien qui ont fait de la polémique, c'est ça que je veux dire, en fait, Karen.
C'est au début du traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, et justement, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que les artistes sont de vrais dévots, et donc de vrais religieux. Au début de ce traité, donc, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort distingue deux types de dévots à Marie. Les vrais dévots, dont il va s'efforcer de faire grandir le nombre avec son ouvrage, donc il essaye de développer leur dévotion, on va dire.
Traiter de la vraie dévotion.
Oui, c'est ça. Et d'autre part, il y a les faux dévots contre lesquels il va lutter. Et ces faux dévots sont de sept sortes. Et ce qui est intéressant, c'est que la première de ces sept sortes, c'est celle des dévots critiques, dont la description semble parfaitement s'appliquer à nos rédacteurs de la note du Dicaster.
Alors lisez-nous.
Puisque le saint écrit,
après cette introduction,
quand on leur rapporte les louanges admirables que les saints pères, donc les pères de l'Église, donnent à la Sainte Vierge, Ou bien ils répondent qu'ils ont parlé en orateur, par exagération, comme les artistes par exemple. Ou bien ils donnent une mauvaise explication à leurs paroles. Et donc il explique que c'est des gens qui sont orgueilleux, qui sont très mondains, et qu'il faut craindre par contre parce qu'ils sont très influents. Ils prétendent détruire les abus de la dévotion à la Sainte Vierge, et ils en éloignent les peuples d'une manière efficace. Et ça me fait penser, j'ai un petit peu réfléchi quand la note a été promulguée, à qui, donc dans les semaines qui ont suivi, avait défendu la vérité sur la corédemption et sur la médiation de toutes les grâces. Et alors j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé des prêtres dans la tradition qui défendaient la note en expliquant que, par exemple, ce qu'écrivait saint Alphonse de Liguori, qui est quand même docteur de l'Église, que ce qu'il écrivait sur la Sainte Vierge était écrit dans des termes qui ne pouvaient plus être employés aujourd'hui parce que la théologie avait évolué.
Ah oui, si on dit que Marie est reine, les reines, c'est fait pour l'échafaud aujourd'hui.
Bah, c'est ça.
On ne peut plus employer ce terme.
Et donc, voilà, ces personnes expliquent que ce serait des imprudences par rapport à la foi théologale parce que les études théologiques et le magistère ont avancé, ont progressé, donc il ne serait plus conforme à la foi de parler de co-rédemption et de médiation de toutes les grâces. Donc c'est vraiment de l'historicisme qui nie ce qu'a dit la tradition.
C'est tout le contraire du développement doctrinal tel qu'on a toujours entendu
Et tel qu'il est question dans Dei Verbum, le Vatican II, développement doctrinal, paragraphe 10. Oh, oui. Moi, j'aime pas l'idée du développement doctrinal.
C'est simplement, si ça développe, c'est seulement... en nous, c'est notre compréhension qui se développe et pas le dogme ne change pas.
Voilà. Je suis un littéraliste et ce que je veux, c'est que tout soit attesté dans l'Écriture. Or, si on prend le chapitre 12 de l'Apocalypse au pied de la lettre, pour ce qu'il veut dire, on a cette femme qui est un grand signe, qui est la mère du Messie et qui est la mère des hommes.
Oui.
Quand on a ça, on a à peu près tout le dogme.
On a ça, c'est la fin de la Bible et tout au début, Genèse 3, 15, c'est la femme que Dieu annonce qui va réparer la faute d'Adam et Ève en écrasant la tête du serpent. Donc la corédemptrice est au début et à la fin.
Au catéchisme, j'enseigne cette phrase avec délectation et je dis à mon petit public, et finalement les femmes n'ont pas de défaut. Je mettrais une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance.
Non, c'est la femme.
Voilà. Alors donc, je leur fais réfléchir à qui est cette femme.
Bien sûr.
Ça ne peut pas être toutes les femmes.
Non. C'est la femme que Jésus, du haut de la toutes croix, appelle femme. Défaut. Femme, voilà ton fils. Voilà. C'est la même.
Voilà. Mais je vous dis ça pour vous détendre un peu. Parce que... Merci pour cette belle émission que j'ai prise en cours. Comment bénéficier de la rédemption si l'on ne fait pas allégeance à l'Église catholique officielle? Ah, là, vous avez une pique.
Eh bien,
que vous relevez.
Nous faisons allégeance à l'Église catholique, à l'enseignement pérenne du magistère, du pape Saint-Pie X, par exemple, qui a enseigné la corédemption en disant, je peux le citer, il dit: du fait que Marie l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ, et qu'elle a été associée par Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire elle est co-rédemptrice, elle nous mérite de convenance ce que le Christ Jésus nous a mérité de plein droit, en stricte justice, et elle est le ministre suprême de la dispensation des grâces. Voilà. Donc, c'est le pape Saint-Pie X qui parle.
Oui, mais
et
alors, comme dirait François Mauriac, ce pape-là n'est pas de ma paroisse. Vous savez, quand le Pie XII a canonisé le pape Saint-Pie X, a fait un saint, il y avait pas, à l'époque, tous les papes n'étaient pas saints, contrairement à aujourd'hui où tous les papes sont saints.
Mais
le monde a changé et s'est amélioré. Hein. On vit mieux aujourd'hui qu'hier, c'est sûr. Donc, François Mauriac avait dit dédaigneusement à propos de Saint-Pie X, ce saint-là n'est pas de ma paroisse.
En tout cas, si on est catholique, il est difficile de nier.
Mais alors, est-ce que vous avez d'autres papes?
Il y a aussi le pape Léon XIII qui a clairement enseigné. C'est le pape qui a écrit, je pense, le plus grand nombre d'encycliques sur la Sainte Vierge.
Sur tout sujet.
Et lui a très clairement enseigné que Marie est médiatrice de toutes les grâces.
Benoît XV aussi.
Et Benoît XV.
Dans un bref en 1918, Inter Sodalitia, qui dit qu'avec le Christ, elle rachète le genre humain.
Oui,
bien sûr, c'est avec lui, mais c'est elle qui rachète malgré tout.
Oui, il dit ceci exactement. Il dit « La bienheureuse Vierge Marie souffrit en effet et mourut presque avec son fils souffrant et mourant. Elle abdiqua ses droits maternels pour le salut des hommes et autant qu'il lui appartenait, immola son fils pour apaiser la justice de Dieu, si bien qu'on peut justement dire qu'elle a, avec le Christ, racheté le genre humain. Elle a racheté avec le Christ le genre humain. Autrement dit, elle est corédemptrice. »
Donc, autrement dit, le premier prêtre est une femme.
C'est ça, j'allais le dire. C'est le sacerdoce de la Sainte Vierge.
C'est du sacerdoce des femmes, peut-être pas du sacerdoce ministériel, je ne dis pas ça. Mais c'est du sacerdoce des femmes dont il est question. Et du sacerdoce des femmes dans leur grossesse aussi. Et dans leur capacité d'enfanter.
Non, il y a une seule mère de Dieu, il y a une seule femme qui était au pied de la croix au moment même où notre rédemption a été opérée par le Christ. Et cette femme unique dans toute l'histoire de l'humanité, c'est la Sainte Vierge.
Et elle qui a permis tout ça.
Oui, c'est elle aussi, c'est la seule aussi à offrir le sacrifice parfait qui est son fils.
Oui.
C'est-à-dire que le seul sacrifice valide, c'est celui du Christ. Donc, seuls les prêtres qui l'offrent vraiment en vérité sont des prêtres.
Elle est la mère des prêtres. Voilà,
la reine du clergé.
Alors, autre question qui ressemble à la précédente, mais il faut la lire parce que c'est l'opinion de ceux qui nous écoutent. Je voudrais savoir si le pape actuel a approuvé officiellement la déclaration du cardinal Fernandez quant au fait que la Vierge ne serait pas corédemptrice. Alors moi, j'ai appris des choses qui s'avèrent fausses, et c'est que ce document était prêt depuis le pontificat de François. Et vous, vous me dites non, c'est pas vrai.
En fait, ce que j'ai entendu de bonnes sources, c'est que au mois de janvier de l'année dernière, la nouvelle du colloque sur la co-rédemption que nous organisions commençait à se répandre et cela a inquiété certaines personnes, par exemple à la Nonciature apostolique de Paris et à l'archevêché de Paris, de sorte qu'au mois de janvier a eu lieu une réunion d'urgence à l'Annonciature apostolique et en lien avec des autorités romaines, pour discuter de ce qu'il fallait faire contre cette initiative pour propager
la dévotion
à Marie Corédemptrice. Et suite à cette réunion au mois de janvier, il y a eu une réunion au mois de mars où ce document, cette note doctrinale Mater Populi Fidelis a donc commencé à être rédigée. Donc c'était une réaction.
Au mois de mars dernier.
Voilà, c'est au mois de mars dernier. Et dans la réunion sur cette...
Donc au mois de mars, le pape François
était encore
déjà
le pape
plus...
François.
Il était... le pape actuel Léon XIV était seulement le cardinal Prévost à l'époque, mais il était présent à cette réunion. Il était
J'aime
présent.
Beaucoup comment vous dites le nom du pape, avec cet accent américain qui est le sien.
Oui,
oui.
Donc... Pour un nom qui est français 100% pur beurre.
Oui, oui. Oui, il est un peu de partout.
Oui.
Après vous, c'est français.
Oui, oui, non, mais son père est d'origine française.
Oui.
Mmh.
Je crois qu'il ne parle pas le français.
Voilà.
Il a parlé français au Liban quand même pas mal.
Oui.
Mmh. Il s'est donné du mal.
Mmh. Mais donc, il était présent à cette réunion au mois de mars. Et ce document a été rédigé d'abord à ce moment-là. Et puis ensuite, le pape Léon XIV a signé cette note doctrinale le 7 octobre, une date très importante. Voilà, une fête mariale. Donc il a approuvé, il a approuvé. On ne peut pas nier cela.
Et merci pour cette belle émission. Maurice Zindel a dit « Marie est la fille du Fils ».
On a déjà lu cette question.
Donc, je reparlerai, à ton cœur.
On a déjà lu ça, oui.
On a déjà dit ce qu'il fallait en penser. Bonsoir à tous. Corédemptrice ou pas, cela ne rajoute rien. C'est parler du sexe des anges, alors que la catholicité est attaquée de toutes parts. C'est une très bonne question. C'est comme la question de la grâce au XVIIe siècle. Ça, c'est pour Thérèse Arnaud, qui est tout à fait chez elle au XVIIe siècle, avec les jansénistes. Un peu comme moi, d'ailleurs. Mais enfin, bon. Ce sont des miracles de Lourdes, ou d'ailleurs, qui me font croire en elle, et pas des débats stériles et contre-productifs. Je suis en train de lire Les Foules de Lourdes de Huysmans, qui, entre deux descriptions peu charitables du peuple des pèlerins et des clergés français, étriqués, décrit quand même des miracles, et je pense qu'il n'invente pas à ce propos. Belle émission. Voilà, alors là, il faut que vous répondiez.
Et oui, bah, justement, je pense que ça n'a rien de stérile ou de purement intellectuel. C'est une question très importante pour la piété la plus vivante. Et justement, c'est ce qu'a voulu faire un peu Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort quand il a distingué la fausse dévotion à la Sainte Vierge de la vraie dévotion. Ce qu'il voulait, c'était précisément montrer la fécondité spirituelle, mystique au sens existentiel, de la dévotion à Marie. C'est-à-dire qu'avec elle, on est assuré de progresser dans la voie à laquelle nous sommes appelés, donc la voie de l'union à Dieu, ce qu'a voulu Dieu pour nous. Et sans Marie, c'est ce que dit Saint-Louis-Marie Grignon-Montfort, on se perd. Et donc l'une de ses premières préoccupations, en distinguant la vraie dévotion à la Vierge d'une dévotion justement purement intellectuelle, c'est de revivifier la chrétienté par Marie, et par la dévotion à Marie.
Et par son fils.
Et parce qu'en
fait,
fils.
Le problème, c'est que si on oublie Marie, on finit par oublier le Christ lui-même.
Mais oui, c'est ça.
Qui devient...
C'est ce qui s'est passé chez les protestants.
Voilà. Qui devient une espèce d'émergence spontanée qu'on n'explique pas, parce qu'il n'a pas de mère.
Mais oui.
Et...
Sous prétexte de ne pas déroger à la dignité d'un médiateur unique, eh bien, on va rejeter la dévotion à Marie. Mais en rejetant la dévotion à Marie, mère de Dieu, eh bien, on va finir par rejeter la divinité de Jésus, la foi en Jésus-Dieu.
Il y a un texte que je vais publier dans mon Évit très, très bientôt. Il y a un texte du cardinal anglais Newman qui dit très bien ça. Il dit, pour les peuples catholiques, parce qu'à l'époque où il écrit, il est anglican, ce serait un crime que de ne pas participer à la dévotion mariale alors que c'est la manière dont Dieu se donne à eux.
Ah oui.
Oui.
Oui, ce serait ça, un crime.
C'est étonnant parce qu'à l'époque, il est un professeur d'université reconnu, un des sages de Grande-Bretagne, et il n'est surtout pas catholique.
C'est la Sainte Vierge qui l'a attrapé, puisque tout passe par elle. On lui doit
parce
la conversion de Newman.
Parce que dans son premier sermon,
aussi.
Vous ne croyez pas si bien dire, parce que dans son premier, j'ai vu ça grâce à cet article, de l'abbé Lotte, qui est très, très bien développé, très précis. Dans son premier sermon, il parle de la Vierge Marie et il dit à ses anglicans qui l'écoutent, mais vous rendez grâce et au fils. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait bien pour un tel fils d'essayer de rendre grâce aussi à sa mère?
Oui. Et plus on honore la Sainte Vierge, plus on honore son Fils. Et moins,
voilà. Moins on honore la Vierge, plus on s'éloigne du Christ.
Plus on s'éloigne du Christ.
Et on se fait une religion métaphysique,
oui,
conceptuelle.
C'est pas du tout une question purement théologique ou théorique, ce combat. C'est vraiment un combat pour la chrétienté.
C'est le contraire. Le combat contre la co-rédemption est un combat... qui se cache, mais qui est métaphysique et abstrait.
Oui, C'est ça.
Avec
ça.
La grande idée qu'on ne participe pas à son salut. Oui. Alors, si on ne participe pas à son salut, on est sauvé.
Mm.
Et on ne peut pas admettre que Dieu, qui est infiniment bon, fasse autre chose que de nous sauver.
Mm.
Par conséquent, le salut est automatique pour tous.
C'est
la religion conciliaire qu'on connaît bien.
Bien sûr.
Mm. Et je voudrais revenir...
Et qui vide les églises.
Qui vide les églises.
Alors que, justement, prêcher sur la co-rédemption, prêcher sur la participation de Marie au salut... C'est prêcher aussi sur notre participation à notre salut. La Vierge, évidemment, elle participe au salut du monde. C'est là où sa médiation est absolument exceptionnelle. Nous, nous participons à notre propre salut. Mais cette participation est essentielle.
Oui.
J'ajoute ce qui manque à la passion du Christ, dit saint Paul.
Mmh.
Ce qui manque.
Mmh.
Et je pense qu'à travers la co-rédemption de Marie, c'est l'idée même de co-rédemption qui est attaquée par la nouvelle Église, j'ai pas d'autres mots, et cette idée de co-rédemption est remplacée par une idée de la rédemption automatique, qui est mortifère pour l'Église, parce que ça veut dire que finalement, la religion n'en a rien à faire, de toute façon, le bon Dieu est bon, il nous sauvera à la fin, et s'il nous sauve pas, c'est le dernier des salauds.
Et donc, il n'existe pas.
Voilà. Accessoirement.
Mais pour revenir à la remarque de cet auditeur qui dit que voilà, il n'a pas besoin de ces discussions sur la co-rédemption pour prier Notre-Dame de Lourdes et bon.
Et qui préfère Huysmans à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ça, bon, peut-être il a droit.
Mais en tout cas, voilà. Si nous...
Je ne parle pas d'un évangéliste ou d'un homme inspiré par Dieu, mais je parle d'un.
Si nous pensons à Notre-Dame de Lourdes, elle a dit à Lourdes, elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Voilà, elle est venue comme pour confirmer le dogme que Pie IX venait de proclamer. Et si elle est l'Immaculée Conception, c'est pour être co-rédemptrice. Et si elle est co-rédemptrice, c'est pour pouvoir nous donner toutes ces grâces qu'elle nous donne à Lourdes. Donc, en fait, c'est le dogme et la dévotion mariale que nous connaissons à Lourdes, à la rue du Bac, sont en harmonie, ne sont pas, comment dire, en compétition. Voilà, c'est un des grands défauts de cette note doctrinale, de créer une sorte d'opposition stérile entre dévotion populaire, comme d'aller à Lourdes, et développement ou enseignement doctrinal, alors que en réalité, les deux choses vont de pair.
Oui, on vit de la doctrine.
On vit notre dévotion est fondée sur cette doctrine. Voilà.
Je veux dire, dans l'article que j'ai fait pour mon dévis sur le sujet, j'ai été frappé du texte du cardinal Fernandez, tout chaud pour les intimes. Non, mais c'est comme ça qu'il se fait appeler, c'est pas négatif. C'est au contraire pour se rapprocher de lui, essayer de le comprendre. Et donc, Tucho nous dit, de toute façon, tout ce qui est trop compliqué pour le peuple ne doit pas être repris par l'Église. Alors, si la co-rédemption est trop compliquée pour le peuple, est-ce que la divinité du Christ n'est pas trop compliquée pour le peuple? Est-ce que la trinité des personnes dans l'unicité de Dieu n'est pas trop compliquée pour le peuple?
Dans la lumière inaccessible. Bien sûr.
Bah, chaque dogme est là justement parce qu'il est compliqué, parce qu'on n'y accède pas autrement que par la révélation.
Mais on peut aussi expliquer simplement
à cette dimension de la révélation.
Oui. Mais si on veut enlever des choses compliquées, il faudrait commencer par cette note doctrinale, je crois. Ce serait un bon début.
Vous êtes redoutable.
Ils sont très hypocrites
aussi.
Votre
petite voix. Non, c'est très bien.
Ce qui est compliqué, c'est l'ambivalence et l'hypocrisie entre cette idée de la note que les titres, enfin qu'il faudrait craindre que les titres de co-rédemptrice et de médiatrice de toutes les grâces sèment la confusion chez les fidèles, et en même temps le fait que ambivalence entre ça et que le cardinal Fernandez, par exemple, ne s'est pas inquiété de ce que les fidèles pourraient penser de son approbation de la bénédiction des couples homosexuels. Ça aussi, c'est très...
Il s'est impliqué beaucoup dans les réactions favorables
oui.
à ce document.
Oui, mais il s'est pas inquiété de ce que ça pouvait conduire les gens sur la voie de l'erreur ou du péché mortel.
Oui, non, ça, pour lui, je pense que ça n'existe pas. D'ailleurs, dans cet univers sans co-rédemption, ça n'a pas lieu d'être.
Et oui.
Dieu
oui.
est bon. Dieu ne peut faire que le bien, tout seul. Mais parce qu'il est cause libre de ce qu'il cause, comme dit Cachetan, il accepte que nous soyons cause à ses côtés. Et c'est cette métaphysique-là qui se trouve attaquée par le document de Fernandez. Et c'est la métaphysique chrétienne, pourquoi le dire.
C'est ce que dit Pascal, par la prière on acquiert la dignité de la causalité.
Ah mais voilà. Je ne connaissais pas cette pensée de Pascal, mais elle est magnifique.
Oui. Par la prière seulement. Hein.
Oui, mais alors si on dit par la prière on obtient la dignité de la causalité, on comprend tout à fait que Marie a une prière unique.
Ah, bien sûr.
Qui touche Dieu de façon unique, puisqu'il le touche pour toute l'humanité. Et que, par conséquent, elle a un rôle unique.
On l'appelle omnipotentia supplex, la suppliante toute-puissante. Elle est toute-puissante sur Dieu.
Voilà. Et là, on a effectivement la fameuse phrase de Saint Bernard, que j'aime bien parce que c'est un chevalier français, en fait, avant tout, et que cet instinct chevaleresque, il l'a mis dans sa spiritualité. Et vous savez que les chevaliers vénéraient leur dame.
Et oui.
Marie était la dame de Saint Bernard qui disait « De Maria numquam satis ». De Marie, jamais on ne pourra dire « c'est trop ».
Mais je pense qu'un point qu'on pourrait soulever, c'est que ce document du Dicaster qui donc a été promulgué par le cardinal Fernandez, a été préparé, je dirais, de longue date, parce que les erreurs qu'on peut y trouver remontent au temps du Concile Vatican II. Voilà, je pense qu'il est important de le dire.
Il faut maintenir l'idée qu'il n'y a rien sur la co-rédemption dans Vatican II.
Oui, c'est ça.
En fait, on a débattu du fait de savoir si on devait parler de la co-rédemption.
Oui, il y avait tous les évêques européens qui demandaient la proclamation du dogme à l'aube du concile, si je ne me trompe pas. Et en fait, les pères conciliaires ont décidé qu'on n'en parlerait pas.
Et justement, dans le dernier numéro du Courrier de Rome, il y a l'abbé Jean-Michel Glaise qui a écrit une série d'articles très intéressants où il donne beaucoup de citations de ces évêques qui, juste à la veille du concile, demandaient la proclamation du dogme de la co-rédemption et surtout de la médiation de toute grâce. Et tout cela a été évacué par le concile, et c'était justement l'objet de la conférence du professeur Roberto de Mattei lors de notre colloque. Et c'est une conférence donc qui est très très intéressante, très importante. C'est un historien du Concile Vatican II. Il a écrit un gros livre, un énorme ouvrage très bien documenté sur tout le Concile. Et il y a un chapitre qui porte sur la Sainte Vierge au Concile, et c'était l'objet de sa conférence. Déjà, ce livre a été réédité par Jean-Pierre Maugendre de Renaissance catholique. Et c'est un livre vraiment que...
Édition
Contre-temps que tout le monde devrait posséder. Et puis, c'est un extrait, voilà, ou retravaillé de ce livre sur la Sainte Vierge au Concile, le professeur de Mattei a proposé comme conférence à notre colloque, et les actes du colloque, d'ailleurs, seront publiés par Via Romana d'ici quelques mois, au mois d'avril. Donc, si on s'intéresse à ce qui est devenu la doctrine mariale au Concile, c'est la référence, voilà.
Voilà. Et alors, au Concile, on a surtout adopté le titre de Marie, Mère de l'Église.
À la fin.
Le Lumen Gentium, le grand traité sur l'Église de Vatican II, qui se clôt sur cette perspective. Marie est la reine de l'Église. Pourquoi elle est la reine de l'Église ? Parce qu'elle est avant l'Église, d'une certaine façon.
Oui, mais donc ils avaient écarté toute la doctrine de la co-rédemption et de la médiation de toute grâce, alors que la majorité des évêques voulaient la proclamation du dogme. Et à la fin, ils ont, comment dire, Paul VI a accordé ce titre, Marie Mère de l'Église, un peu comme...
Prix de consolation.
Un prix de consolation. Mais,
c'est sympa pour la Sainte Vierge.
C'est ça. Et une raison aussi, c'est parce que ce titre, Mère de l'Église, peut être interprété, je dirais, de manière minimaliste ou maximaliste. On peut dire qu'elle est Mère de l'Église parce qu'elle nous accompagne comme une bonne mère. Elle est modèle pour nous. Elle est une bonne maman qui nous accompagne.
Voilà, là, vous décrivez bien la mariologie qu'on veut substituer.
C'est ça.
La mariologie.
Alors que la dire co-rédemptrice, on ne peut pas. Voilà, c'est difficile de minimiser le mystère de Marie.
C'est pas juste une maman qui a des bons sentiments.
Oui, c'est ça. Mais c'est là où on voit aussi les liens avec la nouvelle messe. La nouvelle messe, c'est comme un repas convivial et Marie est comme une bonne maîtresse de maison qui nous accompagne. Alors que la co-rédemption, c'est la mère qui sacrifie son fils, qui offre son fils à Dieu le Père au pied de la croix et c'est Jésus qui...
Conformément à la volonté de Dieu indiquée par le vieillard Siméon.
Exactement.
C'est important de voir que dès la toute jeunesse du Verbe incarné, ce rôle de Marie est prévu.
Est prévu. Et puis la Sainte Messe, nous le savons, c'est le sacrifice de la croix. Et la Sainte Vierge est comme là, spirituellement, comme notre co-rédemptrice qui sacrifie son fils. Et donc la défense, je dirais, de la vraie messe traditionnelle et de la co-rédemption va de pair. Ça va ensemble. C'est tout un.
Vous allez être une redoutable bretteuse, je sens dans cette... Je ne sais pas si on emploie le mot bretteur au féminin, mais vous mériteriez que ce soit possible.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je le prendrai pour un complément.
Il y aurait une image encore peut-être plus...
Non, mais dites ce que veut dire bretteur.
Ah, bretteur.
Vous qui êtes normalienne.
Oh, c'est quelqu'un qui se bat bien, je crois.
Qui se bat bien au service d'une cause, souvent,
je pense. C'est ça.
Donc ça va, ça vous va. Bretteuse, ça vous va?
C'est surtout la Sainte Vierge. Oui. C'est elle qui écrase. C'est elle qui écrase le
serpent.
Tête du serpent, je crois. Nous sommes dans son talon, oui.
Il y a une image encore pire de la Sainte Vierge qui serait rejetée par ceux qui ont écrit la note. Donc c'est pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, monsieur l'abbé. Voilà, l'idée que Dieu est bon, il ne va pas nous damner. Et Marie, ce serait une bonne mère qui est bien gentille, qui a des bons sentiments pour nous. Ça me fait penser à un passage de Saint Léonard de Port-Maurice qui parle de la mère du juge lors du jugement dernier. Donc il décrit le jugement dernier et les réprouvés, selon lui, verront la mère de miséricorde se détourner d'eux, leur dire « Voilà, j'ai prié pour vous toute ma vie, mais maintenant je n'y peux plus rien, je vous abandonne au juge qui va vous atomiser en quelque sorte. Enfin, qui va vous envoyer en enfer. Qui va vous juger. » Et la mère de miséricorde qui devient mère du jugement.
Oui, mais le jugement de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu ajoute. C'est nous qui faisons le jugement de Dieu.
Mais cette image est complètement en contradiction avec la...
Parce que nous sommes co-rédempteurs ou co-damnateurs.
Oui, mais dans la nouvelle...
Non, mais vous ne croyez pas?
Oui, ça me paraît juste.
Je ne sais pas, ça vient de sortir, mais je... Il me semble que c'est possible.
Dans cette nouvelle théologie, il n'y a presque plus de réprouvés, il n'y a plus de prédestinés. C'est, tout le monde est sauvé. Donc, il ne peut plus y avoir de mère de miséricorde, il ne peut plus y avoir de jugement. Donc, tous les titres de la Sainte Vierge et tous les titres du Christ sont détruits les uns après les autres, en fait, si on nie la co-rédemption.
Alors, vous avez quelqu'un, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui s'appelle Claude, ou elle s'appelle Claude. Bonsoir. Marie nous a dit qu'elle était l'Immaculée Conception, Mère du Christ et médiatrice, notre avocate. Elle ne s'est jamais prétendue co-rédemptrice. Je suis plutôt contente de cette décision, de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Avec elle, nous pouvons diminuer le fardeau des péchés du monde que le seul Christ rédempteur, par son sang, nous a sauvés. Avec elle, nous pouvons diminuer le fardeau des péchés du monde dont le seul Christ rédempteur, par son sang, nous a sauvés. C'est une petite...
Moi, je répondrai que Marie a dit « Je suis l'Immaculée Conception » après la proclamation du dogme par Pie IX.
Oui, voilà. Il y a eu ce petit miracle de Bernadette répétant sur le chemin par peur d'oublier.
Oui.
Alors que le curé Père Amal, qui n'était pas commode, lui avait demandé qu'elle dise qui elle est.
Oui, et elle.
Cette femme.
C'était comme une sorte de confirmation ou même de récompense pour la proclamation du dogme. Et on peut imaginer que le jour où nous l'espérons, elle sera proclamée co-rédemptrice, eh bien, elle viendra couronner la proclamation de ce dogme en venant nous dire « Je suis la co-rédemptrice ». Mais on peut aussi ajouter que Marie ne s'est jamais proclamée mère de Dieu. Et pourtant, ça, c'est un dogme de l'Église catholique.
Donc, c'est un dogme terrible quand on y réfléchit. Hein.
N'est pas
très facile à expliquer,
réfléchi.
Comme dirait Tuchot, comme dirait le cardinal Fernandez. C'est pas facile à expliquer, ça devrait disparaître.
Ça reconduit les scandales sur la double nature du Christ, en fait.
Oui.
Oui, mais à propos d'une simple femme.
Oui, c'est-à-dire
mère
une simple
de Dieu,
femme.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est scandaleux de penser qu'une femme puisse être mère de Dieu.
Oui.
Et moi, j'attends de vous que vous disiez aux auditeurs pourquoi ça n'est pas scandaleux.
Pourquoi ce n'est pas scandaleux de dire mère de Dieu?
Oui.
Mais en un sens, c'est tout à fait
alors,
scandaleux.
Vous me citiez Saint-Cyril. Voilà. Mais...
Parce que Dieu s'est incarné.
Oui.
Et il a voulu venir dans l'humilité et dans ce qui est petit devant les hommes pour pouvoir sauver...
S'il s'est fait homme, il n'y avait pas 36 moyens, ou alors c'était un personnage surnaturel.
Oui, c'est ça. Oui, il a voulu assumer pleinement notre nature, donc il a voulu avoir une mère aussi.
Oui.
Oui, mais l'appeler mère de Dieu. Est-ce que ce n'est pas bien pire que de parler de co-rédemption?
Oui, c'est beaucoup... C'est ça, c'est un titre beaucoup plus inouï, si on y pense. Mmh.
Voilà,
de dire mère de Dieu. Voilà, si on trouve que...
Vous nous avez promis tout à l'heure, mais c'est passé rapidement, un texte de Saint-Cyril, je crois, un texte extraordinaire de Saint-Cyril que vous avez dans vos cartons.
Dans mes cartons, oui. Alors, donc,
Saint-Cyril qui est donc l'évêque
du Concile d'Éphèse. Voilà, Saint-Cyril d'Alexandrie qui est père et docteur de l'Église. Eh bien, après avoir déclaré... Marie, mère de Dieu, lors du concile d'Éphèse en 431, il a prononcé un discours d'éloge de la Sainte Vierge, mère de Dieu, que je pense que les hommes d'Église d'aujourd'hui, surtout ceux qui ont rédigé cette note doctrinale, ne pourraient pas imaginer, comprendre ou supporter, mais ça vaut la peine.
Alors, vous nous avez fait une excellente introduction. Voilà quelque chose d'inouï, d'insupportable.
Mais c'est splendide. Alors, voilà, vous allez entendre une suite de titres de la Sainte Vierge et on pourrait facilement ajouter co-rédemptrice à cette longue énumération. Mais voici ce qu'il dit, Sainte Cyrille d'Alexandrie. Nous vous saluons, ô Marie, Mère de Dieu, trésor digne de vénération et qui appartient à l'univers entier, lampe dont la lumière est inextinguible. Nous vous saluons, couronne de la virginité, sceptre de la vraie doctrine, temple indestructible, c'est par vous que la Sainte Trinité reçoit la gloire et l'adoration. C'est par vous que le ciel est dans l'exultation, que les anges tressaillent de joie, que les démons sont mis en fuite, que le tentateur est tombé des hauteurs célestes et que la créature humaine jadis déchue est admise aux joies immortelles. C'est par vous que toutes les créatures, après avoir connu les folies de l'idolâtrie, sont revenues à la connaissance de la vérité. C'est par vous que le Saint-Baptême est donné aux fidèles, avec l'huile qui donne la force et la joie. C'est par vous, pourquoi en dire davantage, que le Fils unique de Dieu est apparu comme un être resplendissant à la pauvre humanité qui était assise dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Mais quelle lèvre humaine pourrait dignement célébrer la Vierge Marie qui est véritablement au-dessus de toutes les louanges ?
C'est magnifique.
Voilà la réponse.
Oui, je pense que c'est une belle réponse. Et c'est une réponse du 4e siècle. Je voudrais que les auditeurs comprennent que c'est le message le plus ancien est ce message de la gloire de Marie.
Voilà. Il l'appelait notre rédemptrice, d'ailleurs, les premiers pères. Pas co-rédemptrice, il l'appelait la rédemptrice.
Oui. Alors qui ?
Mais par exemple, Sainte Catherine de Sienne, elle est docteur
c'est
de l'Église. C'est pas si ancien.
15e siècle.
Mais elle est docteur de l'Église et sainte extraordinaire. Elle appelait Marie rédemptrice du genre humain. Mais
elle l'est d'une certaine façon, puisque son rôle de mère était nécessaire à la rédemption. Donc là, on a, comme d'habitude, les auditeurs qui se réveillent à la fin de l'émission. Donc on va essayer de passer tout le monde. Bonsoir à vous tous. N'est-ce pas une vision protestante de la Vierge Marie ? Une démarche écuménique de plus. Oui, joyeux Noël à tous.
Merci. Oui, c'est ça.
C'est indiqué au début de la note, d'ailleurs.
Alors, au début de la note, il est...
Au début de la note, une des raisons au rejet des deux titres de gloire de la Sainte Vierge, c'est notamment un effort écuménique particulier. Et de fait, cette tentative de abaisser la Sainte Vierge pour prétendument relever le Christ, c'est typiquement protestant. Hein.
Alors, là, c'est une confidence que nous fait cet homme. J'aimerais compléter mon premier message. Je suis poursuivi par Marie depuis longtemps et en de nombreux lieux, mais je ne trouve aucune place en aucune église dite catholique. S'il dit dans une église dite catholique qu'il est poursuivi par Marie, on va le traiter de tous les noms, non ?
C'est vrai.
Alors, il faut choisir, cher monsieur, et vous êtes libre de choisir. De choisir une église qui n'est pas peut-être la plus officielle, mais qui est celle où vous trouverez un enseignement sur Marie sans arrière-pensée.
On peut aller à Saint-Nicolas du Chardonnay, dont on fêtera bientôt les 50 ans de la prise.
Ah, c'est important.
En 2027, c'est 28 février 2027, je crois. Peut-être que vous connaissez mieux le jour que moi, mais...
Je ne connaissais pas le jour précis.
Il y aura une très grande fête. J'ai reçu l'invitation aujourd'hui.
J'essaierai d'en être si je ne me fais pas virer comme un malpropre, on verra.
Et c'est tout en l'honneur de la fraternité Saint-Pidis, oui, d'être presque le seul, oui, à défendre la co-rédemption et la médiation de toute grâce de Notre-Dame, oui, avec beaucoup de vigueur.
Ils ont organisé tout un dimanche avec des réparations et, dans le monde entier, des prières de réparation, des sermons, des travaux pour défendre la
vérité. Donc ça, c'est pour notre auditeur qui dit qu'il ne trouve aucune place dans une église dite catholique. Je pense que vous voyez où trouver place. Merci beaucoup. J'ai encore un auditeur ou deux qui ne seront pas lus, mais tant pis. Merci de votre participation passionnée à cette émission. Elle en valait la peine.
Vous venez d'entendre le libre journal de Chrétienté dirigé par l'abbé Guillaume de Tannouarn, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 11 décembre 2025 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.